Fleischer au micro pour l'émission Mosaïque. Eh bien, aujourd'hui, il y a autour de la table Jean-Pierre Dubreuil, humaniste, Alain Martin, catholique, Jean Botvinnik, juif, Catherine Bianchi, protestante. Et puis, on regrette que parmi nous, il n'y ait aujourd'hui pas de musulmans. Mais M. Enbati n'a pas pu se libérer, voilà. Alors, bonjour à tous, merci d'être là.
Bonjour.
Et puis, toujours, comme dans nos émissions précédentes, nous évoquions, eh bien, qu'est-ce qui a marqué l'actualité qui vous a, dont vous voulez faire part. Catherine.
Alors, la Fédération protestante de France mobilise au maximum et sensibilise pour une justice climatique. Et le 20 et le 21 septembre,
c'est-à-dire aujourd'hui même,
voilà,
nous enregistrons,
il y a une marche sur Paris. C'est une marche de sensibilisation jeunes et moins jeunes, avec le président de la Fédération protestante de France, François Claveroli, Martin Kopp, qui, au sein de la Fédération protestante, est le président de la commission écologie et justice climatique, et puis Nadine Marchand, qui est présidente de la commission jeunesse de la Fédération protestante. Et c'est une marche en soutien du mouvement de la jeunesse pour le climat en amont du sommet qui se tiendra à l'ONU à New York le 23 septembre. Voilà, sensibiliser les gens.
Voilà, donc on...
Et puis, dans notre église protestante unie, il y a beaucoup de sensibilisation pour faire des églises vertes, réfléchir comment...
On peut utiliser moins de papier,
moins
d'énergie.
Moins de papier, moins d'énergie, moins de choses pour, voilà, moins de voitures, etc., pour faire des économies et protéger le climat.
Donc la sensibilisation au climat, c'est vrai aussi dans le monde chrétien catholique, avec beaucoup d'églises qui essaient de se faire labelliser église verte. Bon. Je ne sais pas où on en est, nous, à Dreux. Mais c'est une question importante, parce que ça veut dire que toute la société là-dessus se mobilise et à l'initiative des jeunes. Je crois que c'est intéressant, cette écoute des jeunes.
Oui, tout à fait.
Et au Cercle, on prévoit de travailler sur l'eau.
Oui, alors ça, c'est pour la rencontre-débat. La rencontre-débat du mois de janvier.
La recherche du bien commun nous amène à...
Exactement. Cette rencontre qui est devenue traditionnelle, ça sera la 13e, je crois, entre les débats Drouet, qui dépendent de la paroisse, et puis le Cercle laïque.
Plus d'autres,
voilà, l'ALIF, l'association dont s'occupe Mimoun Enbati, et puis l'association
Bon, oui. Et bien voilà. Donc, on perçoit que là, il y a une recherche commune. Monsieur Botvinnik, vous aviez aussi des remarques concernant un tout autre domaine.
Ah, tout à fait, oui. J'ai lu que le 4 septembre s'était éteint le cardinal Roger Etchegaray, qui avait 96 ans. C'était un proche du pape Jean-Paul II. Il a été le président de la Conférence des évêques de France. Donc c'est un haut gradé catholique. On peut dire, sans ironie. Il a participé au Concile de Vatican II et il a assisté à la rédaction de Nostra Aetate, adoptée le 15 octobre 1965, et qui récuse toute responsabilité du peuple juif en tant que tel dans la mort du Christ et condamnant les persécutions antisémites. Il était très sensibilisé aux relations judéo-chrétiennes. Et c'est lui qui a été chargé par son évêque de Bayonne d'aider la juste Germaine Ribière. C'était une résistante et elle a été nommée juste des nations pour faire revenir secrètement les enfants Finelli d'Espagne en France en 1953. C'était un ami du grand rabbin de France et du pasteur de l'église protestante François Claveroli, pour lesquels il a écrit une préface pour leur livre commun qui s'appelle « Paroles d'alliance ». Il a dit, entre autres, « La pérennité du peuple juif n'entraîne pas seulement pour l'Église un problème de relation extérieure, mais un problème intérieur qui touche ici à sa propre définition. Tant que le judaïsme restera extérieur à notre histoire du salut, nous serons à la merci des réflexes antisémites. » J'adhère tout à fait à à ça. Chaim Korshia lui a rendu hommage. Chaim Korshia, le grand rabbin de France, lui a rendu hommage. Et nous pouvons aussi le saluer comme un pionnier des relations interreligieuses.
Voilà, et nous nous inscrivons à sa suite.
Dans sa suite.
Alors à cet égard, justement, l'association Coexister fête ses 10 ans. Et dans son numéro des 10 ans, elle rappelait que, pour elle, la laïcité est ce cadre légal qui permet de vivre librement selon ses croyances. Elle ajoutait, plus on nie le fait religieux, plus on creuse le fossé entre croyants et non-croyants, et il faut accueillir sans perdre son identité et sans que la personne accueillie ne perde la sienne. Je crois qu'on peut souscrire parce que c'est vraiment cette laïcité qui nous permet d'échanger librement et chacun chez soi, en tenant compte de l'autre et en apprenant de l'autre. Ça aussi, je crois que c'est important que foi et savoir se croisent. Hein. Il n'y a pas de... Une foi ignorante, c'est sûrement une foi qui aboutit à l'intolérance. Enfin, en tout cas, c'est dans cet esprit qu'est faite cette émission, ce qui va me permettre de passer à la seconde partie de l'émission sur le thème que nous avions déjà abordé dans nos émissions précédentes, qui était des rites autour de la mort. Voilà, vous
oui.
êtes dans l'équipe qui accueille les familles.
Mmh, tout à fait.
Et
oui.
comment vous percevez justement cette évolution peut-être ? Alors, il y a les mêmes rites peut-être, dans les célébrations d'obsèques, ou... mais il y a, j'imagine, des évolutions que vous avez perçues.
Ben, j'aurais peut-être un petit peu du mal à mesurer précisément les évolutions, dans la mesure où... Je pratique depuis simplement 3 ans l'accompagnement des familles, et donc je n'ai pas le recul. Hein. Maintenant, il y a une chose dont je me suis aperçu, c'est la nécessité de rites. Les familles qui viennent pour demander les obsèques chrétiennes sont très attachées aux rites, aussi bien celles qui ont vraiment une démarche de foi en allant à l'église, que celles qui nous demandent de faire des prières au crématorium. Il semble que, quelque part, il y a un désir, pas toujours très bien formulé, de vivre ce passage de la vie à la mort selon des rites qui sont nécessaires pour accepter mieux, peut-être, ce mystère terrible qu'est la mort.
Voilà.
Oui, je...
Jean-Pierre.
Bah, c'est un simple témoignage. Mon épouse est décédée...
Récemment.
Voilà,
récemment.
Elle ne voulait pas aller à l'église pour une raison qu'elle ne m'a pas donnée. Elle voulait que la cérémonie ait lieu au crématorium, mais elle croyait vaguement en Dieu et elle a tenu à ce que des catholiques s'expriment
pendant la célébration.
Tout à fait, oui, oui.
Voilà.
C'est bien le signe aussi que, quelque part, au fond de nous, il y a cette nécessité de transcendance et qu'on se dit, ben oui, voilà.
Puis il y a la foi élémentaire en la vie.
Et la foi aussi élémentaire en la vie. Voilà.
La vie qui s'achève pour chacun, mais c'est quand même quelque chose d'important. Catherine, pour les protestants.
Beaucoup de gens ne sont pas préparés à la mort, ne sont pas confrontés. C'est un sujet un peu tabou que l'on aborde peu. Moi, j'essaie d'en parler souvent autour de moi, mais d'une façon simple et claire, sans que ce soit morbide, mais faire réfléchir les gens. Parce que d'un seul coup, les gens perdent un être cher et sont confrontés au néant, et alors qu'ils ne sont pas préparés. C'est un petit peu dommage, je trouve que c'est pas... On n'aborde pas suffisamment ce sujet, que ce soit dans les églises ou...
Notre temps actuel nie la mort.
Voilà.
On ne voit plus la mort. Avant, on la voyait chez soi, on mourait chez soi. Maintenant, on disait plus de 90% des gens meurent à l'hôpital. Et on meurt dans la solitude,
absolument,
en plus. Ce qui fait que les proches, ils n'ont personne, d'être en dehors des médecins, mais enfin, personne n'a ce côtoiement avec la personne mourante. Et donc avec les pensées qui vont avec, sur la finitude et sur la vie aussi, sur le bienfait de la vie.
Oui, ça, ça permettrait de respecter la vie davantage peut-être aussi en même temps.
Oui, absolument, parce que ça permet de voir que Dieu nous a donné la vie, il la reprend, mais il ne nous a pas du tout demandé de mourir avec. Et le rite est là pour essayer d'expliciter ça, le rite juif tout au moins, et essaye d'expliciter que Dieu a donné, Dieu a repris, bon, Dieu soit loué.
C'est dur, Dieu a repris. Enfin,
oui, c'est le texte qu'on dit quand le cercueil va dans la terre lui-même, et je l'ai dit plusieurs fois. Et mais on va rassurer les endeuillés et on va leur dire que la vie doit continuer parce que Dieu nous a créés pour vivre et non pas pour mourir. Mmh. Enfin, on va mourir parce que Adam et Ève ont fauté, d'accord. Mais la vie doit continuer et il y a bien des gens d'ailleurs qui vont vivre avec leurs défunts, ce qui est presque une maladie mentale de vivre avec tout le temps les défunts.
C'est-à-dire penser à la personne.
Non seulement penser, mais aller tous les jours au cimetière, avoir chez soi les photos, ne plus sortir de chez soi, etc. Et ça, il y en a.
Rester dans le deuil.
Comme ça, rester dans le deuil en permanence. Et donc, c'est finalement se couper du monde et mourir à petit feu.
Donc, est-ce que le rite funéraire qui intervient, justement, est là pour signifier qu'effectivement, il y a une rupture et que.
Alors, on est d'accord que ça fait mal. Il y a une période de deuil avec son rite de rester pendant 7 jours à la maison, si on peut, parce qu'il faut travailler aussi. Donc, il y a un minimum de rester pendant 3 jours à la maison parce qu'on a un chagrin énorme. Et puis ensuite, il faut revivre, il faut se réadapter à la société, retravailler et continuer. Et nos sages ont dit qu'au bout d'un an, c'était fini. Et ils ont même autorisé le mariage du veuf au bout de 3 mois. Au bout de 6 mois même. Après plusieurs fêtes, donc au bout de 6 mois, le mariage de la veuve au bout de 3 mois, de façon à éviter que s'il y avait un enfant, qu'on puisse l'attribuer à l'ancien ou au nouveau. Mais la vie doit continuer et tout l'enseignement juif est fait pour ça. Alors, bien sûr, les rites sont encadrés par le Talmud, par nos prières, par les rabbins, par les connaissants.
Tandis que chez les protestants, il n'y a pas de rite. Bien sûr, il y a un accompagnement, comme vous disiez, déjà de la personne malade ou des familles. Et puis, mais quand la personne, il y a un service d'obsèques ou de culte, action de grâce ou un enterrement, le message ne s'adresse pas aux défunts, mais aux personnes restantes. C'est-à-dire que nous annonçons l'évangile de la résurrection, nous rendons grâce à Dieu. Et nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir connu cette personne. Et le message s'adresse aux restants, justement, pour continuer de vivre et de poursuivre leur vie, leur chemin de la vie, quoi.
Alors là, vous avez dit un mot un peu gros, vous avez dit résurrection. Parce que c'est effectivement le socle de la foi commune aux religions chrétiennes et juives.
Oui.
Donc la résurrection, c'est-à-dire la croyance dans une vie après la mort.
Absolument.
Oui, oui, mais elle n'est pas
au bout d'un certain temps et on ne sait pas quand.
Oui, c'est pas quelque chose de vraiment primordial. Ça existe, mais c'est pas vraiment primordial. Ce qui compte, c'est notre vie ici-bas, que nous vivons. Alors, naturellement, dans le rite de la mort, le rite de l'enterrement, la personne est enterrée, il faut qu'elle soit intacte, donc le problème des greffes va se greffer là-dessus. Si on va massacrer un corps pour la résurrection, ça va peut-être pas être très bien, mais ceci étant, on n'en sait rigoureusement rien. Ça va également, on va penser que l'incinération, elle n'est pas permise parce que tu as été conçu dans la poussière, tu dois retourner à la poussière et non pas en cendres, d'autant que les cendres sont volatiles et que souvent on balance les cendres à la mer, etc. Et que pour, justement pour la résurrection, enfin, il faut faire confiance à Dieu pour la résurrection, de retrouver toutes les cendres.
Chacun,
enfin,
chacun retrouve son paquet d'os.
Bon. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on ne déplace pas nos morts. Nos morts doivent rester tout le temps enterrés au même endroit. Et quand les cimetières sont pleins et qu'on commence à déterrer, à mettre ensemble les ossements, ça fait tout à fait hurler les autorités rabbiniques actuellement.
Donc dans le monde juif, ça ne se fait pas.
Non, non, parce qu'on doit rester sur place. C'est sur place que on est devenu poussière, et de cette poussière-là, sur place, Dieu nous fera passer par les chemins souterrains jusqu'à la terre promise.
Ah oui, parce que nous, quand la personne est morte,
la crémation est autorisée pour
vous. Ah oui, bien sûr. Mais, comment dirais-je, c'est l'âme qui... La résurrection, c'est l'âme qui monte auprès de Dieu, si vous voulez. C'est pas le corps. Le corps n'est plus là. Le corps, c'est quelque chose de terrestre, si vous voulez. Il ne monte pas vers le Seigneur.
Oui.
Alors que du côté chrétien, on parle de la personne.
Oui.
Alors ça, c'est difficile, parce que quand on voit le Christ ressuscité, c'est assez étonnant, mais les pèlerins d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. On le reconnaît seulement quand il a un geste liturgique.
Oui, c'est exact. Mais quand même, dans notre foi chrétienne, nous croyons à la résurrection de la chair. C'est ce que nous disons dans notre credo.
Oui.
Donc nous croyons qu'à un moment donné, quand le Christ le décidera, quand il reviendra sur notre bonne terre, eh bien à ce moment-là, les morts ressusciteront dans leur corps. Alors bien sûr, un corps transfiguré, comme dit saint Paul, puisque visiblement, on ne sera pas avec peut-être autant de cheveux qu'on a pu avoir, mais nous serons à nouveau des êtres vivants, vivants d'une autre façon,
oui,
qui est mystérieuse. Mais voilà. En tout cas, c'est le credo du chrétien.
Oui,
et c'est important que de le rappeler à cette occasion-là.
Tout à fait. C'est le credo juif aussi. À ceci près qu'on peut se poser évidemment des questions sur son apparence, sur son habillement,
sur les modalités.
Sur les modalités.
Mais ça reste un mystère.
Ça reste un mystère.
Mais c'est vrai que c'est un mystère, d'autant plus que chaque fois qu'il y a une apparition de la Vierge, elle apparaît dans le costume des gens chez qui elle est.
Voilà.
Donc lorsqu'elle apparaît en Inde, elle est devenue indienne, et lorsqu'elle apparaît à Lourdes, sous les traits de l'européenne que l'on imaginait à l'époque. C'est
oui.
ça, hein ?
Oui, mais on voit aussi qu'elle a changé de physionomie. Des fois elle est noire, des fois elle est brune, des fois elle est plus blanche. Enfin, voilà.
Selon les pays.
C'est une bonne évolution.
Oui. C'est une bonne évolution.
C'est une reconnaissance que la blanchitude n'amène pas toute seule le règne de Dieu.
Exactement.
Donc, ce qui nous amène à dire, eh bien, ça, ce sont des choses mystérieuses et qu'il vaut mieux approfondir avec les théologiens de sa connaissance.
Oui, sauf que
nous, on peut rester là.
c'est aussi une question de foi, quoi, hein, parce que la foi n'est pas là pour répondre à toutes nos interrogations, hein, la foi est là pour justement se laisser toucher par...
l'aspect mystérieux.
Oui, l'aspect mystérieux, et être dans l'espérance et la confiance totale. Non, Dieu, c'est le tout autre, aussi. De toute façon.
Voilà,
alors,
il faut quand même continuer dans la confiance, il faut pas aller dans l'angoisse ou l'inquiétude.
Sinon, c'est pas...
On ne sait pas
l'espérance.
Absolument, bon, l'espérance. Jean-Pierre a peut-être quelque chose à dire par rapport à ça.
Ben, moi, je ne peux parler qu'en mon nom personnel.
Oui,
hein.
Oui c'est ça, chacun, là, on est...
J'ai très apprécié tout ce qui a été dit autour de la laïcité, parce que je crois qu'effectivement, c'est elle qui nous permet de bien vivre ensemble. Sur le plan personnel, ça, chacun a ses choses. J'ai assisté mon père, ma mère, mon épouse, et... Moi, je ne crois pas au credo. Voilà, j'ai été élevé avec une éducation catholique et le credo, je regarde et je voilà, résurrection de la chair. Pour moi, ça ne parle pas. Et préparation à la mort, qu'est-ce que ça peut être ? Alors ça, c'est quelque chose que je me pose régulièrement comme question à titre personnel, hein, une sorte d'hygiène mentale. J'y pense souvent. Quand j'étais jeune, elle me scandalisait, la mort. Je trouvais abominable que des gens jeunes meurent, ne puissent pas bénéficier de la richesse de la vie. Maintenant, j'avoue que c'est complètement différent. Ça ne m'angoisse pas au quotidien. Je ne sais pas comment ça se passera à la dernière minute, mais pour le moment... C'est pas un problème pour
mais,
moi.
Mais parce que vous y aviez réfléchi, c'est ça que je veux dire. Moi, quand je dis préparer à la mort, c'est comprendre que chaque être est mortel. Il a différentes étapes dans la vie et qu'à la fin, il disparaît.
Tout à fait.
Et je veux dire, c'est le faire comprendre aux gens qu'il y a une évolution dans la vie. On est jeune, on devient adolescent, on se marie, on fait des enfants, on devient grand-père, voilà. Etc. Et voilà.
Puis, c'est la bonne...
Ça fait partie du cycle de la vie.
Des fois, il y a des accidents.
Voilà.
Ah oui,
des accidents de la vie qui font que bien, des personnes jeunes, des enfants tombent malades et meurent, alors qu'on se demande pourquoi, hein, on s'interroge.
Ah oui.
Voilà. Justement, ça rejoint ce qu'on disait au début, on ne sait plus voir la mort, mais ce que vous ressentez à votre âge, je me mets à le ressentir aussi, qu'il y ait une espérance de vie ou non, mais le fait d'avoir fait son temps et le fait de devoir mourir, je me l'assimile maintenant, j'ai près de 80 ans, je me l'assimile maintenant, et peut-être... Je peux avoir le secours de la religion quand de temps en temps je me mets à croire et de temps en temps que je ne crois plus de la même manière. Et je pense que le dire aux gens quand ils sont jeunes, vous savez, la vie, elle est ceci, elle est cela, tant qu'on ne vit pas cet espace de vie, c'est difficile à comprendre. Alors peut-être que le credo, le fait de croire va peut-être même empêcher d'y penser en permanence finalement.
Oui, c'est difficile à dire aux jeunes, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Un jeune qui perd son grand-père ou sa grand-mère, enfin, dans la suite logique des âges et des générations, je ne parle pas des accidents, mais il faut le préparer en lui disant que cette personne va nous quitter et que voilà, elle est arrivée au bout de sa vie. Et je pense que c'est une forme de préparation, je veux dire.
Lorsqu'on dit à un enfant ce qu'est la mort, il le comprend. Enfin, pour lui, c'est... J'ai remarqué que, par exemple, on veut, dans certains cas, soustraire les enfants à la connaissance de la mort de leur grand-père, ou
oui,
la présence du cadavre, ou qu'ils n'aillent pas aux obsèques. Et en fait, on s'aperçoit que les enfants, à la limite, c'est beaucoup plus naturel et ça vient facilement. Et ils expliquent, eh bien, mais bah, tu es vieille, mamie, mais pas trop encore puisque tu n'as pas de canne. Mais bah, oui, tu vas mourir comme la mamie de papa. Voilà, la mamie de papa, elle est morte. Bah, toi, tu es ma mamie, mais donc tu vas mourir aussi un jour. Pas tout de suite, tu n'es pas encore trop vieille. Je trouvais ça remarquable. Ma petite fille m'a expliqué ça. Je me suis dit, bah, dans le fond, ils ont une vision plus... Enfin...
Mais ils acceptent plus facilement.
Quoi. Oui. Bon, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça représente.
Bien sûr, ils ne mesurent pas tout, mais
enfin,
ils acceptent.
Je veux dire que, quelquefois, j'ai remarqué que les enfants étaient plus courageux qu'on ne le pense.
Tout à fait.
Tu as peut-être repéré avec tes propres petits
oui,
enfants.
Oh, oui, je suis d'accord. Les enfants sont dans... Quand ils sont malades en particulier, ont beaucoup de courage. Oui.
C'est...
On a peur, c'est notre temps, on a peur de parler de la mort. Alors oui. Peut-être, puisqu'il y a une exposition de Toutankhamon en ce moment, on pourrait aborder la mort en disant, ben voilà, les Égyptiens, ils croyaient qu'il fallait avoir énormément de choses pour traverser la mort, pour aller au panthéon égyptien, et c'est pour ça que...
On a la merveilleuse exposition de Toutankhamon.
On a les objets de Toutankhamon, alors que finalement, quand on meurt sans rien du tout, on n'emmène rien. Dans la tradition juive, on peut être vêtu d'une robe blanche sans poche, parce qu'on ne met rien dans les poches, parce qu'on ne doit rien emmener, parce que rien ne passe, par exemple. Et donc ça peut être un biais pour faire comprendre, bon, Toutankhamon, lui, il pensait qu'il allait, enfin, à l'époque, on pensait qu'il allait être un dieu
de leur
pantalon. Et donc, il fallait beaucoup, beaucoup d'objets pour naviguer sur le fleuve, etc. Alors qu'en réalité, finalement, quand on y pense, ben, la mort, c'est...
Mais l'Égyptien de Basse-Égypte, son contemporain, lui... n'avait pas autant de choses autour de lui.
Oui, c'était selon son rang et sa richesse. Oui,
oui là, c'est...
Les Égyptiens, on les druides, parce qu'à Saint-Gem, proche de l'entrée de Messières, il y avait des cercles funéraires.
Ben oui, très bien, on a des objets mégalithiques qui sont quand même à valeur funéraire.
Absolument. Comment dirais-je, le premier cercle était pour le personnage important de la communauté ou du village, et puis à côté, des petits cercles pour les petites gens qui étaient à son service, quoi. Donc, je veux dire, par là, comme dit Jean, il y avait un respect de la personnalité du personnage important du village, quoi.
Mais le corps est sacralisé chez les Juifs, puisque c'est le berceau de l'âme. Et le corps doit être respecté au moment de la mort et après la mort. Et par exemple, donner son corps à la science, c'est quelque chose qui est très difficile, qui ne doit pas se faire, puisqu'on va dépecer le corps. Et donc, ce n'est pas dans la tradition de l'attente, justement, du Messie plus tard. Alors, ça posait un problème, puisque les médecins, il fallait bien qu'ils connaissent l'anatomie. Et donc, quelqu'un qui veut donner son corps pour l'enseignement, pour sauver la vie d'autres, à ce moment-là, les rabbins ont permis la chose. Mais de la même manière, le fait de brûler...
Pour le don d'organes aussi.
Pour le don d'organes, c'est un petit peu plus difficile, comme on en a parlé la dernière fois, pour décider de l'arrêt de la vie. De l'arrêt de la vie. Alors pour des organes comme des os ou bien la cornée qui ne nécessite pas finalement de savoir si on est encore en vie ou non, c'est faisable. Par contre, pour un organe vivant comme le cœur ou le foie aussi, ou les reins, eh bien il faut absolument décider de ce qui est la mort. Oui. Et là, nos rabbins entre eux ne sont pas tout à fait d'accord. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord pour l'électroencéphalogramme plat.
Eh bien, vous savez, notre émission s'achève. Donc, après toutes ces réflexions autour de la vie, mais aussi de la mort, puisque c'est finalement, la mort fait partie de la vie, c'en est la fin. Eh bien, nous vous disons bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.